pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, les semences transgéniques sont des bombes à retardement. L'Argentine, qui a tout misé sur le soja OGM de Monsanto, en fait la mère expérience. 20 ans de culture de soja transgénique sur 70% des terres agricoles. Résultat, le pays est devenu le premier exportateur mondial d'huile et de farine de soja. C'est l'effet bombe. Mais cette réussite économique coûte cher. Les épandages de glyphosate, un herbicide puissant, ont stérilisé les sols et dégradé la santé de milliers de personnes. Mais la mobilisation s'organise.
Le problème dans notre pays, c'est que la justice est de leur côté. Les entreprises comme Monsanto arrivent toujours à leur fin. Elles font pression sur la justice, sur l'État, sur le gouvernement. Elles sont toutes puissantes parce qu'elles dominent l'économie de l'Argentine et du monde.
C'est un reportage de Marine de la Moissonnière à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Wow ! Une tradition ! Il est exceptionnel ! C'est tout simplement
exceptionnel.
Eh oui, exceptionnellement. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas très foot, mais encourager son équipe nationale dans des compétitions du niveau de celle de la Coupe d'Europe, je comprends que ça puisse faire vibrer. Allez, allez, allez! Mais enfin, au-delà du spectacle et de la communion des peuples, les coulisses sont, on peut le dire, écœurants, insidieusement. Vous allez voir pendant un mois les mêmes marques partout, sur les terrains. Adidas est le sponsor principal de l'Euro, mais aussi sur les vêtements des joueurs et lors des publicités à la télévision. Le BASIC, le Bureau d'analyse sociétale et d'information citoyenne, vient de publier une étude anti-jeu, les sponsors laissent les travailleurs sur la touche. Bonjour Naïla Jaltouni.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette. C'est vous qui avez commandé cette étude pour creuser justement les liens entre le modèle économique des équipementiers sportifs et les conditions de travail dans leur chaîne d'approvisionnement. Les équipementiers du foot n'auraient donc pas fait de progrès malgré toutes les campagnes de mobilisation pour dénoncer les conditions de fabrication de leurs produits.
Mais c'est effectivement un peu l'objet de ce rapport. On s'est évidemment intéressé aux grands sponsors, aux grands équipementiers du foot, parce que l'Euro qu'accueille la France va être un événement considérable et qui va générer beaucoup de profits, notamment pour ces trois grands sponsors, hein, Nike, Puma et Adidas. Et puis effectivement, 20 ans après le premier scandale qui a ébranlé cette industrie en touchant Nike en 1996.
On se souvient, c'était des photos dans Life Magazine, je crois.
Exactement, Magazine
d'enfants
Life.
Qui fabriquaient des ballons de foot
qui
à même cousaient, le sol.
Voilà, exactement, à la main des très jeunes enfants, des ballons de foot. Et pour la première fois, le public, les citoyens se rendaient compte de ce modèle de délocalisation qu'avait commencé à pousser à outrance Nike en faisant fabriquer ses articles de sport dans des pays à très bas coût, avec une main-d'œuvre donc très peu rémunérée, tout en continuant à investir, en commençant à investir très fortement dans du sponsoring et son image de marque.
Mais ça, c'était il y a 20 ans.
Ça, c'était il y a 20 ans. Ce que montre le rapport, c'est pas nécessairement que rien n'a évolué. Ce qui montre surtout, on va en discuter tout à l'heure, c'est que finalement, il y a un nouveau modèle qui a été mis en place qui vise à, pour acquérir davantage de parts de marché, pour augmenter les volumes de vente, investir à outrance dans des coûts de sponsoring de clubs, de joueurs, d'équipes nationales. Et que pour dégager la manne nécessaire à cet investissement, il faut bien délocaliser encore et aller chercher des coûts de production les plus bas possibles, au premier rang desquels les salaires des ouvriers qui fabriquent ces produits.
Alors Sylvain Lee, vous êtes co-auteur de cette étude, puisque vous faites partie du BASIC, ce bureau d'études. Et ce qui ressort, c'est que le marketing, c'est le modèle de la croissance de ces marques.
Oui, tout à fait. Ce qui est frappant quand on regarde le modèle économique de Nike ou d'Adidas, c'est l'inflation, l'explosion des dépenses marketing et plus précisément dans ces dépenses marketing du sponsoring, comme le rappelait Naïla à l'instant, ces 3, 4, 5 dernières années. Pour mémoire, l'équipe de France jusqu'en 2008 avait un contrat avec Adidas de environ 10 millions d'euros par an. Ils ont changé de fournisseur et à ce moment-là, le contrat est passé à 42,7 millions d'euros par an. L'équipe d'Allemagne aujourd'hui actuellement est en contrat avec Adidas. Elle touche environ 25 millions d'euros par an. Il est question qu'il y ait une renégociation de ce contrat l'année prochaine. Et on parle de 1 milliard d'euros sur 10 ans, soit 100 millions d'euros par an, donc un fois 4.
Oui, donc ça, ce sont des chiffres quand même assez impressionnants. Et puis, il y a les contrats annuels avec les joueurs, hein, type Lionel Messi, Paul Pogba. Là aussi, ce sont des montants assez incroyables.
Alors, il est toujours très difficile de savoir précisément ce que touchent ces joueurs-là, hein, entre ce qui touche, on va dire, pour les pubs ou pour des campagnes de communication. Mais on a essayé d'avoir quand même une estimation des montants annuels touchés par ces stars du ballon rond. Effectivement, ça s'approcherait aujourd'hui pour des joueurs comme Messi ou Pogba de 40 millions d'euros par an, 38 millions d'euros par an environ. Il y a 4 ans, c'était plutôt de l'ordre de 20 à 25 millions. Donc là aussi, une inflation de 10 à 15 millions d'euros en quelques années seulement.
Alors on pourrait se dire, ce n'est pas très grave si tout le monde s'y retrouve finalement. Hein. Allez, un joueur de foot, s'il a un bon dribble, on le paye bien, on a un contrat, c'est très bien. Le problème, c'est que les équipementiers sportifs, pour alimenter ce marketing, essayent d'obtenir des marges toujours plus importantes sur les produits qu'ils vendent, Neila et Jatouni.
Oui, je pense qu'à la fois les grandes stars du football, qui sont aussi qui n'en fait pas la majorité évidemment des contrats et des conditions de travail des footballeurs professionnels, et comme les travailleurs des chaînes de sous-traitance ne sont pas rémunérés à hauteur effectivement de la valeur de leur travail. Alors ça fait depuis le milieu des années 70 hein, que la production de vêtements d'articles de sport a lieu en Asie du Sud-Est, notamment principalement en Chine, qui rassemble une grosse partie de la production de chaussures et de vêtements de sport. C'est toujours le cas, mais alors que la Chine ou les travailleurs chinois ont vu les salaires minimums augmenter et les salaires dans l'industrie textile augmenter pour atteindre désormais des niveaux qui leur permettent de vivre décemment, ces grandes marques, hein, Nike, Adidas, qui par ailleurs se considèrent et communiquent sur une responsabilité sociale qu'elles auraient développée davantage que d'autres marques du secteur, bah, se désengagent de ces pays pour aller chercher de main d'œuvre encore beaucoup moins chère, comme au Vietnam, comme en Indonésie, où là on a des écarts de salaire qui ne permettent pas à ces travailleurs de vivre correctement. Donc c'est-à-dire que non seulement on continue à produire à bas coût, mais on va chercher de moindres coûts de production et
Parce que le modèle, c'est justement de dire on va essayer de mettre en place un modèle économique pour et ensuite on verra comment ce modèle économique tient dans tel ou tel pays, c'est ça ?
Exactement.
Sylvain Lee ?
Oui, en fait, l'industrie des équipementiers sportifs a adopté des techniques qui ont déjà précédemment été testées et on va dire approuvées avec succès dans l'industrie automobile, par exemple. C'est le lean management, le target costing. En fait, il s'agit, en partant d'un prix de vente consommateur, après de définir une marge qu'on veut obtenir sur la vente du produit, et après, derrière, de compresser tous les coûts de production au maximum.
Et résultat, donc, un travailleur gagne combien sur une paire de baskets ou sur un t-shirt ?
Alors, on a fait le calcul, là encore, il s'agit d'une estimation. Mais sur un maillot de l'équipe d'Allemagne, vendu environ 85 euros aujourd'hui dans un magasin en France, un travailleur, il va toucher 65 cents.
Allez, une petite pause avec l'anglais Declan McKenna, qui à 16 ans a sorti son premier single Brésil pour dénoncer justement la corruption au sein de la FIFA.
Un événement, non pas de l'euro, ça sera forcément un grand rendez-vous. Nous voulions faire davantage, utiliser dans le meilleur sens du terme l'euro pour que ça puisse être l'affirmation d'une ambition française, une ambition économique sûrement, une ambition culturelle, mais également une ambition en termes de valeurs. Le sport est déjà une valeur, c'est l'ensemble de règles, de disciplines qui méritent le respect.
François Hollande dans C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des dessous peu reluisants des sponsors et des équipementiers de l'Euro 2016. Bonjour François Tomaso.
Bonjour.
Vous êtes journaliste sportif, écrivain. Alors comment est-ce que vous réagissez à ces propos de François Hollande qui parle des valeurs du sport ?
Ça, c'est une vieille histoire. Hein. Les valeurs du sport, c'est le fonds de commerce du sport, d'ailleurs. C'est ce qui permet au sport de se présenter comme un produit de marketing, puisqu'on en a parlé auparavant, différent des autres, puisque, contrairement au business pur qui, lui, véhicule les valeurs de l'argent, le sport est censé véhiculer des valeurs de justice, d'égalité, des chances, et ainsi de suite. Chose dont que j'ai un petit peu dénoncé dans un bouquin que j'avais sorti il y a 2 ans, qui s'appelait L'imposture du sport. Et c'est vrai que quand on entend ce que vient de dire vos intervenants sur les équipementiers, on se rend compte que ces valeurs sont parfois un petit peu troubles. Et voilà.
Oui, vous avez publié une enquête, L'Empire du jeu, dans la revue Dessinée, dans laquelle vous démontrez que ce que dénonce l'étude du Basique, finalement, c'est le fruit d'une histoire qui remonte au début de la saga Adidas et Puma, deux marques fondées par deux Allemands, les frères Dassler.
C'est ça. Donc en fait, ce à quoi on arrive aujourd'hui, c'est finalement la continuation pure et simple de ce qui a commencé pratiquement pendant la Deuxième Guerre mondiale avec ces deux frères Dassler, l'un créant Adidas, donc Adidasler, l'autre créant Rudi Dassler, créant Puma. Et c'est la concurrence effrénée que se sont livrés ces deux frères qui étaient fâchés pour des sombres histoires pendant la guerre, qui va amener non pas seulement au développement de ces deux marques, mais à la création pure et simple du sport business, en fait. Puisque au départ, ils se lancent une compétition farouche pour pouvoir vendre des chaussures et des maillots. Et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte, alors c'est Horst Dassler, hein, le patron d'Adidas, qui a une sorte de visionnaire qui va créer petit à petit le marketing sportif. Il se rend compte très vite qu'au lieu de simplement prendre des stars pour porter ses chaussures et ses équipements, ça serait pas mal aussi de s'acheter des équipes. Donc il devient sponsor très rapidement de l'équipe d'Allemagne, ils le sont toujours, hein. Adidas l'est toujours. Ensuite, il a l'idée assez géniale d'offrir gratuitement des équipements Adidas aux petites équipes des pays africains, par exemple, en leur disant « vous n'avez pas l'argent pour vous équiper, ben on va vous offrir des équipements ». Grâce à cette politique, il devient un maillon extrêmement important du monde politique sportif, puisqu'il tient les fédérations africaines, les fédérations asiatiques et les fédérations des pays de l'Est. Et quand il faut élire des gens à la FIFA et plus tard au CIO, au Comité international olympique, Horst Dassler, il tient tous les patrons des fédérations ou des comités olympiques nationaux des petites nations, et peut comme ça faire et défaire les rois. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, puisque quand Joao Avelange, qui va d'ailleurs, il y a quelques années, être contraint à la démission pour corruption, est élu président de la FIFA, c'est avec l'argent et le soutien d'Horst Dassler. Quand Juan Antonio Samaranch, en 1980, est élu président du CIO, c'est avec l'argent d'Horst Dassler. Et je vous signale au passage que l'actuel président du CIO, Thomas Bach, qui est un ancien champion d'escrime allemand, a commencé sa carrière chez Adidas, aux côtés d'Horst Dassler. Donc quelque part, c'est Adidas qui a créé aujourd'hui le monde sportif, aussi bien politique et commerçant que nous connaissons. Et le scandale à la FIFA avec la chute récente de Sepp Blatter, lui aussi conseillé d'ailleurs à la FIFA par Horst Dassler, c'est finalement, comme vous le dites, la continuation de cette lutte pour vendre des chaussures. Et finalement, tout est dans tout. Le scandale que dénonce le rapport qui vient d'être évoqué, finalement fait partie de ce grand édifice lancé à l'origine par une lutte fratricide entre Adi Dassler et Rudi Dassler.
Alors, est-ce que la situation s'est assainie avec tous les scandales qui ont été révélés récemment, selon vous ?
Je pense qu'on avait atteint un niveau de pourriture tel qu'il était, l'édifice ne pouvait que s'écrouler. Alors, est-ce que les choses se sont assainies ? Dans une certaine mesure, oui. Parce que toutes les grandes instances sportives mondiales, que ce soit le CIO ou la FIFA, ont créé des commissions d'éthique indépendantes qui peuvent les faire tomber. Après, il ne faut pas être naïf. Horst Dassler, il a ouvert la boîte de Pandore, il a laissé rentrer vraiment... Parce que par la suite, au lieu de vendre seulement des chaussures, il a compris très vite que sur les stades, on peut, et dans la retransmission sportive, on peut faire rentrer d'autres firmes. On peut faire rentrer Coca-Cola, on peut faire rentrer Visa, on peut faire rentrer American Express, on peut faire rentrer tous ces gens qui finalement vont profiter de l'exposition exceptionnelle qu'est un événement sportif pour Faire de la publicité, se partager ces pseudo-valeurs du sport pour en faire un argument de vente. Et donc, au final, le scandale dépasse largement le cadre des équipementiers et des fabricants de ballons ou de chaussures, puisque c'est finalement tout le big business qui est partie prenante du sport, qui, je vous le rappelle, génère chaque année un chiffre d'affaires de 800 milliards de dollars.
Merci François Tomaso. Je rappelle que votre enquête « L'Empire du jeu » est à lire dans le numéro 8 de la revue Dessinée. Neila Jaltouni, on comprend bien que la situation des travailleurs qui fabriquent des baskets en Chine ou au Cambodge, avec ce qu'on vient d'entendre, c'est loin d'être la priorité.
C'est loin d'être une priorité. En même temps, ce qui vient d'être décrit montre bien aussi que les citoyens, les consommateurs, les amateurs de foot et de sport se posent quand même des questions et commencent depuis quelques années à rendre des comptes. C'est vrai que l'image du foot a été très détériorée par ces scandales successifs et questions de corruption, etc.
Enfin, il y avait quand même 80 000 personnes sous la Tour Eiffel jeudi soir pour lancer l'Euro 2016. Alors certes, il y avait un grand concert, mais enfin, ça soulève toujours beaucoup d'enthousiasme.
Ça soulève toujours beaucoup d'enthousiasme. Et puis, il y a toujours une part de rêve que proposent de vendre aussi ces grands équipementiers et d'autres sponsors. Mais dans le même temps, les stades ne sont pas pleins. Les places ont été vendues extrêmement chères. Donc, on verra quelle a été l'étendue de la ferveur populaire aussi à la fin de ce match. Mais en tout cas, nos organisations, le collectif Éthique sur Étiquette, relayent aussi des préoccupations quand même des consommateurs, des citoyens. Si Nike, si Adidas se sont engagés dans du développement durable, ont commencé à communiquer, c'est aussi parce que ces grandes marques ont été surveillées dans les années 90, se sentent toujours surveillées, questionnées, et que les amateurs de sport aussi commencent à leur demander des comptes. Alors ça ne se traduit pas forcément dans les comportements de consommation. On continue à acheter évidemment ces articles qui nous font rêver, mais entre l'augmentation des prix, la baisse de la qualité aussi qui est constatée et puis les conditions dans lesquelles tous ces produits sont fabriqués, commencent aussi à mobiliser les citoyens, des consommateurs qui interpellent directement ces grosses marques.
Alors Sylvain Lee, on rappelle ce que touche un travailleur en Chine ou au Cambodge par exemple pour une paire de baskets.
Sur une paire de baskets, on va dire par exemple, prenons une paire de Nike Air Jordan qui est vendue 140 € normalement, il va toucher 2,4 €, soit un peu moins de 2% finalement du prix de vente consommateur. Il faut savoir que ce pourcentage-là était plus élevé il y a 20 ans. C'est-à-dire que à l'époque, en 95, je crois que c'est le Washington Post avait fait une estimation sur modèle de basket de la même marque, et on était plutôt autour de 4% pour les travailleurs.
Ça s'est divisé par deux en 20 ans.
Ça a diminué, effectivement. Ouais.
Et du coup, avec le collectif Éthique sur l'étiquette, vous appelez une mobilisation citoyenne. Alors ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut agir?
Alors on a lancé une campagne qui s'appelle Anti-jeu, Travailleurs sur la touche, et on propose aux citoyens d'écrire directement, d'envoyer directement des emails à Nike, à Adidas, à Puma pour demander des pratiques sociales qui permettent que des salaires décents soient versés et qu'une partie des profits gagnés par ces marques soient aussi reversés à ceux qui contribuent à leur croissance économique, les travailleurs en bout de chaîne. On a une mobilisation sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Alors ça peut paraître un petit peu dérisoire d'interpeller directement ces marques, mais en fait ça fonctionne. Puma a déjà envoyé une communication presse suite à la sortie du rapport en expliquant que de toute façon ils ne payaient jamais les travailleurs en deçà du minimum légal local, ce dont on ne peut que les féliciter évidemment.
En fait, ça ne veut pas dire pour autant que les travailleurs vivent décemment avec
bien
le
évidemment,
minimum.
Et puis surtout ça veut dire qu'ils seraient hors la loi, donc c'est bien évidemment le minimum qu'on leur demande, comment ils respectent les lois locales, mais ça a été uniquement par une diffusion du rapport sans encore que la campagne soit lancée. Donc les marques quand même se sentent surveillées, et plus on est nombreux à les interpeller sur les réseaux sociaux, via les sites web et directement également, plus évidemment elles seront obligées de faire évoluer leur pratique.
Alors on mettra évidemment toutes les coordonnées pour participer à cette pétition sur la page internet de l'émission. Vous tapez C'est pas du vent dans les moteurs de recherche et vous tomberez dessus. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Profitez quand même des matchs si ça vous fait plaisir. On va pas être non plus trop négatif. Restez sur RFI juste après le flash d'info. Nous vous emmènerons en Argentine où la mobilisation s'organise contre la culture du soja transgénique de Monsanto et ses conséquences sanitaires et sociales. À tout de suite.